Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, le samedi 13 juin, la ville d'Angers et ses alentours accueillent la Cyclo pour le climat, une aventure de 100 km à vélo pour sensibiliser sur les effets du réchauffement climatique sur la région angevine. Pour en savoir plus sur l'événement, on reçoit Mathilde Piron, membre de l'organisation. En deuxième partie d'émission, on vous propose d'écouter le deuxième numéro de la série de reportages documentaires produite par la FRAP et la CORLAB, déjà demain les territoires face au changement climatique. Dans cet épisode, on parle de la problématique des maisons fissurées. Pour terminer cette émission, on accueille Camille en stage de seconde. Elle vient nous parler de la situation socio-économique en Haïti à travers le film Freda. Voilà, vous savez tout pour ce pédalo du jeudi 11 juin. Alors ajustez vos gilets de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Dans deux jours, samedi 13 juin, se tient la deuxième édition de la Cyclo pour le climat à Angers. Après une édition 2025 plutôt réussie, le départ est donné à 8h30 depuis le tiers-lieu de Lesvières à deux pas du château et l'arrivée se fera donc au même endroit. Que vous soyez adepte du vélo ou débutant, adulte ou même enfant, vous êtes tous les bienvenus. Au programme, deux parcours de 100 km sont proposés pour le sport, mais aussi pour être sensibilisés aux enjeux climatiques. Pour en parler, on reçoit Mathilde Piron, l'organisatrice de l'événement. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'est la seconde édition de la Cyclo pour le climat ici à Angers. Pour quelles raisons revenez-vous?
Parce que la première avait très bien fonctionné. C'est vrai que je ne savais pas si ça allait prendre l'année dernière. Donc, on avait ouvert 99 inscriptions au niveau de la déclaration en préfecture. Et du coup, comme cette année, comme ça a bien fonctionné l'année dernière, on réitère l'expérience.
C'est un événement qui ne se déroule pas qu'à Angers. D'ailleurs, le concept est né aux Pays-Bas. Vous avez d'autres dates de prévues dans le reste de la France. Comment est-ce que ces villes sont choisies, justement?
Alors oui, effectivement, donc l'association elle est née aux Pays-Bas, elle existe toujours aux Pays-Bas, c'est vraiment l'association mère qui est en Hollande avec l'objectif de sensibiliser les citoyens, le grand public aux conséquences du réchauffement climatique et plus particulièrement en Hollande à l'érosion côtière. Et puis il y a 5 ans maintenant, l'association est arrivée en France, à Saint-Malo précisément, c'était la première édition, puis ensuite à Lyon et puis ensuite à Angers, à Toulouse pour la première année à Paris et l'année prochaine certainement à Nantes. Et la façon dont on choisit, c'est simplement sur la bonne volonté des bénévoles. Si je ramène ça à mon expérience en tant qu'angevine de pourquoi je l'ai organisé l'année dernière et de nouveau cette année, simplement moi je cherchais un moyen d'intéresser les personnes aux sujets environnementaux par le sport, par les sujets de santé et en fait de corréler ces sujets-là entre eux. Et donc j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé Cycling for Climate, je suis aller à Saint-Malo la courir pour la première fois. J'ai adoré. Je me suis bien entendue, notamment avec l'équipe organisatrice, Malouine, et je suis revenue avec le concept en juin.
Alors justement, vous utilisez le vélo pour en faire la promotion aussi. Est-ce que vous avez l'envie de casser justement l'image du vélo de centre-ville ou en compétition en proposant une sortie conviviale et familiale?
Oui, elle est super cette question parce que c'est vrai qu'il y a un vrai sujet à massifier l'usage du vélo. Le vélo de centre-ville, c'est très bien en fait, ça dépend vraiment des usages, la compétition aussi. Mais là, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de réunir tout le monde. Donc aussi tous milieux sociaux, tous âges, tous genres. On a un sujet, peut-être qu'on en parlera, mais sur le fait de faire venir des femmes qui ont d'autres types de contraintes. On a aujourd'hui sur les inscriptions 2/3 d'hommes, donc pour 1/3 de femmes. Donc on cherche à améliorer ça. Mais pour ce qui est des usages, en fait, on va avoir dans la typologie des cyclistes beaucoup de personnes qui viennent en gravel, beaucoup en vélo de route, beaucoup en VTC également et quelques vélos électriques. Mais il ne s'agit pas d'opposer les disciplines entre elles, simplement de venir fédérer autour d'un événement convivial.
Aujourd'hui, le vélo est donc un symbole de l'écologie, souvent utilisé en politique. Le défi consiste à éviter le simple usage du vélo comme slogan et puis à garantir aussi les actions concrètes qui traduisent réellement les objectifs écologiques. Pensez-vous que la cyclo pour le climat est en capacité d'influencer les politiques locales ?
Aïe, aïe, aïe. j'espère en tout cas. Je pense que c'est bien de mettre ce mot politique déjà dans l'émission et aussi par rapport à l'événement, parce que très clairement, c'est un sujet politique. Alors, pas au sens, nous, l'association Cycling for Climate, on est apartisan, on n'appartient à aucun parti en tant que tel, donc on ne se revendique pas non plus politique, mais on sait très bien que ce qu'on promeut, c'est-à-dire l'usage du vélo, le fait de sensibiliser à travers différents leviers, pas que le vélo, le textile avec les warming stripes, le fait de demander aux gens de faire leur empreinte carbone, le fait d'avoir des partenaires locaux, des commerçants qui soient engagés dans l'économie circulaire, donc tout ça, on essaye de contribuer. On essaye aussi de mettre en visibilité les infrastructures cyclables, et c'est notamment la raison pour laquelle on a un partenariat majeur qui est Irigo, aussi pour montrer comment les politiques publiques permettent d'inciter et d'accélérer l'utilisation du vélo. Donc nous, c'est à notre petite échelle en tant qu'association, mais néanmoins, réunir 130 personnes, c'est déjà ça pour visibiliser le sujet.
Alors, vous avez choisi deux parcours cette année de 100 km. Pourquoi cette distance précisément ? Vous n'avez pas peur de faire peur justement aux gens et de les faire fuir un petit peu ?
Oui, c'est intéressant parce que c'est le cas. En fait, j'ai quand même beaucoup de personnes qui hésitent ou ont hésité à s'inscrire parce que c'était 100 km. Donc, on a bien conscience que c'est beaucoup. Après, donc c'est des discussions qu'on a au sein de l'association et des différents organisateurs et organisatrices des autres villes. Mais on a choisi 100 km parce que c'est une distance simple. Et on utilise un peu une métaphore pour se dire, bon, à la fois 100 km, ça peut être un challenge individuel, mais c'est aussi un challenge collectif au regard des enjeux de changement de société qu'on doit voir advenir. Et donc, de faire ça ensemble, c'est faire un effort. Donc, ça montre aussi l'effort des changements de comportement, l'effort des changements des politiques publiques structurelles. Donc, on laisse 100 aujourd'hui.
Alors justement, sur ces parcours de 100 km, pourquoi vous avez choisi ces parcours-là ? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes, instructives à voir là-dessus qui pourraient sensibiliser au réchauffement climatique ?
Oui, alors le réchauffement climatique, il est partout. Puis en plus, on peut carrément le corréler en pays ligérien, notamment aux enjeux du vivant. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi ramener ça au vivant, à la biodiversité, à ce qui est en train de s'effondrer autour de nous, mais aussi aux solutions. Donc les traces, par exemple, l'année dernière, on était parti plutôt sur les bords de Loire. Là, on sait très bien que sur les populations d'oiseaux, notamment les sternes, il y a du déclin. Et cette année, je voulais quand même continuer avec un peu l'état d'esprit des rivières et de l'eau, le cycle de l'eau, et notamment parce qu'on a eu une crue quand même assez importante cette année, et le fait de passer à côté de rivières, je trouvais que c'était important. À côté de ces deux traces, donc route et gravel, on propose aussi aux participants, quand ils s'inscrivent, un quiz avec des questions environnementales. Et notamment, on fait référence, par exemple, aux assises de la transition écologique en Gé-Loire Métropole pour montrer aussi les solutions, ce qui est fait, dans quel sens les politiques vont pour s'inscrire en fait en cohérence avec les traces.
Justement, sur ces parcours, est-ce que vous aurez des guides ou des personnes qui vont apporter des explications, des informations aux personnes justement qui participent ?
J'aurais adoré. L'année dernière, j'avais essayé de le faire en sollicitant plusieurs associations angevines. Et puis, en fait, c'est compliqué quand même de trouver des bénévoles. Enfin, ça prend du temps, etc. Ça nécessite aussi sur le tracé de s'arrêter à plusieurs reprises. Donc, j'ai toujours ça en tête et j'adore cette idée. Donc, pas pour cette année. On le fait que à travers le quiz, à travers les cadeaux à gagner. Pour le moment, on s'en tient à ça. L'année dernière, on avait également fait un village des associations qu'on pas cette année parce que quand les cyclistes rentrent de 100 km, ils sont fatigués et ils ont faim. Donc ils ont moins l'esprit aussi à aller s'intéresser, je pense, aux associations présentes.
Justement, par rapport à la nourriture, vous proposez des ravitaillements et un repas et des électrolytes aussi, ce qui est très spécifique pour le sport, qu'on voit davantage du coup dans le sport en compétition. Cependant, la cyclo pour le climat n'est pas une compétition, c'est quand même important de le rappeler. Oui. Quelle est la motivation première aussi des participants ? Parce que je pense qu'il y en a qui le font pour l'écologie, d'autres pour le sport, pour le défi. Est-ce que les retours de l'année dernière ont été plutôt positifs ? Et puis, quels ont été ces retours justement par rapport à l'année dernière et à cette édition à Angers ?
Oui, les retours ont été hyper positifs. J'ai d'ailleurs vu dans les inscriptions des personnes qui étaient déjà là l'année dernière. Donc, c'est aussi le signe que certainement que l'organisation était quand même pas mal. Sur les motivations, elles sont plurielles. Ça dépend évidemment des gens. Mais j'avais quelques verbatims. On avait envoyé un questionnaire à la fin de l'édition. C'est beaucoup des personnes qui viennent en couple, entre amis, entre collègues. Ça peut être des motivations, comme vous le disiez, pour la santé, pour la compétition, moins, mais en tout cas, l'envie de se dépasser. Pour des raisons écologiques, et ce que je trouve chouette, c'est des personnes qui, un peu de l'ordre de l'éco-geste en quelque sorte, de se dire à mon échelle, je contribue à une association. Le fait que ce soit rattaché à une association pour qui ça fait sens, tout ça donne une dynamique collective plutôt sympa.
On continue de parler de la cyclo pour le climat, mais avant, on fait une pause musicale. On écoute You're Free to Go de Angie Miles, sorti en 2026, il y a tout juste 2 mois. Un morceau calme en apparence, mais qui révèle la rage, les peines et la souffrance de l'artiste. A tout de suite dans le pédalo.
There's something like a new being growing on me. Through the summer, through the morning, through your body. Did you wake me? Did you heal me? Should you call me when you need me? I'll deliver. If that's enough, that's enough, that's enough, that's enough. Why did I begin, not begin, not begin to cry?
C'était You're Free to Go de Angie Miles. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du pédalo et on est avec Mathilde Piron pour parler de la cyclo pour le climat qui se tient ce samedi. Alors pour cette année, vous avez une marraine, c'est Nathalie Bayon, cycliste française spécialiste de l'ultra-distance. Pourquoi l'avoir choisie ?
Bah parce que c'est une femme formidable. Enfin, à titre personnel, je l'admire énormément. J'ai eu la chance de la rencontrer sur un événement Gravel l'année dernière. Mais au-delà de mon cas personnel, d'admiration pour elle, y a plusieurs choses. En fait, on a à cœur... dans les sujets de transition écologique, de mobilité, il y a aussi les questions de justice sociale. Les sujets d'inclusion, on le disait tout à l'heure, mais la question des femmes, j'avais à cœur aussi de mettre en avant une femme qui est pionnière aussi dans sa discipline. L'ultra-distance, c'est vraiment très masculin encore aujourd'hui. Donc pour moi, ça compte beaucoup. D'ailleurs, elle vient de terminer première femme et donc troisième au classement général d'une ultra-distance là en Auvergne, à 770 km. Donc c'est sûr que pour elle, les 100 km, ça va être un petit aller-retour à la boulangerie. Mais voilà, il y a cette question-là, la question des femmes à vélo. Et puis après, il y a aussi le fait de s'identifier à des figures. Donc je trouve que c'est chouette d'avoir une marraine qui incarne ça. Et après, pour ses motivations à elle, elle a eu l'occasion de faire un post sur les réseaux sociaux. Si les gens qui nous écoutent veulent le retrouver, c'est tout à fait possible sur Facebook et Insta. Et puis surtout, elle sera là samedi. Donc elle va nous faire un petit discours d'intro pour nous expliquer pourquoi elle est là, pourquoi ça fait sens pour elle. Et on est hyper fiers.
Alors justement, sur le point d'arrivée et de départ, vous allez avoir un village de sensibilisation. À quoi est-ce qu'il va servir et puis qu'est-ce qu'on pourra y retrouver dans ce village ?
Alors cette année, ça a un petit peu bougé. Okay. On ne l'a pas réitéré. On va plutôt faire une remise de cadeaux, beaucoup des cadeaux immatériels ou des artisans ou des commerçants où j'avais envie de mettre à l'honneur en fait, les produits de l'économie circulaire angevin et de faire connaître des entreprises qui vont dans le bon sens, aussi de par leur modèle économique. Et donc pour les associations, dans cette année, il n'y en aura pas parce que c'est juste une question de timing, c'est-à-dire qu'on enregistre à 8h15, les personnes sont attendues à 7h-ci, et puis ensuite on aura un mot d'introduction du lieu qui nous accueille, du tiers-lieu de Lévière qui nous accueille, mais aussi de notre partenaire Irigo, de Nathalie Bayon, et ensuite de la remise de ces cadeaux-là, et avec un départ à 9h15, donc bon, c'est un peu compté, d'où le fait qu'on ne réitère pas.
Justement, par rapport à vos partenaires, vous avez un partenariat avec la marque éco-responsable Vélor. C'est d'ailleurs elle qui conçoit les maillots Warming Strips, totalement fabriqués en Europe à partir de matières recyclées. Pour quelles raisons travaillez-vous avec cette marque et pas une autre marque, justement ?
Vélor, pour le coup, c'est une marque qui est pionnière dans le textile cycliste en économie circulaire, avec ce principe et cette valeur, enfin même cet ADN dans l'entreprise, de s'extraire des matières issues de la pétrochimie et surtout de se dire que la boucle doit complètement être bouclée dans le modèle d'affaires et donc utiliser vraiment des produits issus de la filière textile pour être réutilisés dans la filière textile et donc en textile que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, mais en maillot issu de l'économie circulaire et pas forcément genre des bouteilles ou des choses comme ça c'est plus un principe de boucle ouverte. Donc ça fait sens pour nous dans ce cadre-là. Ils viennent de sortir d'ailleurs une nouvelle gamme ReLove qui va encore plus loin en fait dans ce concept-là. Ils sont labellisés Bicorp. Enfin franchement, c'est une entreprise assez incroyable. Donc on souhaite les soutenir et c'est la raison pour laquelle ça fait 5 ans que la Cycling for Climate travaille avec Vélor.
Alors justement, les maillots Warming Strips sont vendus seulement au prix de 60 euros, ce qui, on le sait habituellement, un haut coûte beaucoup plus cher, quasiment le double de ce prix. Est-ce que vous avez la volonté de montrer que l'on peut s'habiller avec de l'éco-responsable, mais de façon accessible ?
Ah, j'avais pas. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce prisme-là, mais oui, complètement. Si ça peut permettre effectivement à des gens d'avoir du textile cycliste accessible pour l'occasion, c'est avec grand plaisir. Et puis aussi, moi j'aimerais, dans les années à venir, croiser des cyclistes pendant l'année qui portent les maillots ou le textile, parce qu'on a aussi des chaussettes, des gapettes, etc., de la marque Vélor aux couleurs des Warming Stripes, en dehors de l'événement de la cyclo pour le climat, et ça montrera qu'on aura au moins réussi à visibiliser ce sujet-là.
Par rapport encore à vos partenaires, le groupe DMD, qui a pour slogan « Ma voiture, ma mobilité » est l'un de vos partenaires. Est-ce que ce choix de valoriser des modes de déplacement individuels et pas 100% éco-responsable ne contredit pas vos valeurs et ce que promeut l'événement?
C'est intéressant. Alors, pour Angers, ils ne sont pas partenaires pour Angers spécifiquement. Moi, pour Angers, le partenaire majeur que j'ai financier, c'est Irigo. Ça fait peut-être un peu plus sens, mais c'est vrai que peut-être par le passé, j'ai pas trop l'historique par rapport à ça parce que moi, je suis que pour l'organisation angevine. Mais pour répondre à votre question, évidemment, on fait hyper attention aux partenariats qu'on a. Maintenant, moi, je suis pas dans le purisme. Alors ça, c'est plutôt ma posture, en l'occurrence. Mais il n'y a pas de perfection. C'est-à-dire, on est imparfait dans un modèle et dans une société qui est de toute façon imparfaite, donc on peut que tendre vers le mieux. Évidemment, on va pas aller, je caricature un peu, mais faire un partenariat avec Total Energy, ça serait quand même un petit peu un contresens. Mais pour autant, on essaye aussi d'encourager des partenariats qui s'engagent aussi dans des démarches de transformation de modèle économique et que ça ne contrevienne pas aussi aux valeurs de l'association.
Pour réduire notre empreinte carbone, l'objectif national est d'atteindre les 2 tonnes de CO2 par personne d'ici 2050. Pensez-vous que c'est un objectif qui est atteignable?
on n'a pas le choix. c'est un peu facile comme réponse, mais clairement, on n'a vraiment pas le choix. En fait, on est complètement dépendant, on a une addiction en fait au pétrole. Tout repose, tout ce qu'on fait dans notre vie, même là, aujourd'hui, là où on est, tout est fabriqué à partir des énergies fossiles. Donc effectivement, il y a un énorme sujet à atteindre les 2 tonnes. Ça équivaut, je crois, à une contraction de l'économie de 6% par an. Donc c'est en gros un Covid, mais qui devrait être souhaité et pas subi. Donc il y a un travail d'avoir tout le monde autour de nous. Alors clairement, il y a un sujet de richesse. Parce que en fait, c'est ça qu'on demande aux cyclistes quand ils s'inscrivent aussi sur la cyclo, c'est d'évaluer leur empreinte carbone sur nos gestes climat. Alors nous, il y a zéro évidemment moralisation ni quoi que ce soit, mais par contre, c'est qu'ils se rendent compte par eux-mêmes des ordres de grandeur. Et c'est clair que si on mange de la viande 2 fois par jour, qu'on prend l'avion non-stop, etc. Ça va exploser. Et il y a pas mal de personnes qui se rendent pas compte de ça ou qui sont pas forcément même sensibles à ça. Donc on essaye de ramener à ces sujets-là. L'année dernière, on avait fait un espèce de grand paperboard justement avec les promesses climat que les gens avaient mis. Il y avait des promesses incroyables de personnes qui disent moi je prends plus l'avion. Donc il y a aussi derrière des sujets de l'éco-anxiété, tout ça. Mais oui, en fait, on n'a pas le choix et c'est collectivement qu'il faut que les règles du jeu changent. J'insiste aussi sur le fait que surresponsabiliser les gens, c'est vraiment dangereux de faire ça parce que je pense que les gens en ont marre en fait. Qu'on leur donne des éco-gestes alors que tout un système est à bouger. Donc, à notre échelle, on est surtout, c'est bon pour la santé, vous luttez contre la sédentarité avec le vélo, et en même temps, on ramène ça à, prenez quand même conscience que depuis le début de l'ère industrielle, on ne fait qu'accélérer, on va droit dans le mur, quoi.
Justement, dans moins d'un mois, le Tour de France fera son retour avec le talentueux Paul Sexas en chef de file pour la France. Ouais. Cette compétition peut-elle être perçue comme une ambassadrice de la lutte contre le réchauffement climatique?
Je sais pas, je sais qu'il y a eu une polémique aussi là sur la coupe d'arbres notamment à l'occasion de... c'est sûr que nous, ce à quoi on réfléchit en tout cas, c'est maintenir des événements à taille humaine. Alors c'est clair, on est loin du Tour de France, mais maintenir des événements à taille humaine parce que il y a notamment les travaux du Shift Project qui ont été faits sur décarboner le sport. Il existe aussi des associations qui aident les fédérations sportives ou les clubs sportifs à mieux penser la façon dont on fait le sport, dont on fait du sport, les relais médiatiques, les spectateurs qui se déplacent, enfin tout ce que ça induit. Je sais pas, j'ai pas trop de position par rapport à ça, mais c'est clair que, on a toujours fait comme ça. Puis il y a les hélicos, les voitures, etc. Mais ils ne peuvent que faire mieux.
Merci beaucoup Mathilde Piron d'avoir été à notre micro. Je rappelle, la Cyclo pour le climat, c'est samedi. Et pour s'inscrire, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Cyclo pour le climat. Bonne soirée.
Merci.
Le pédalo, ça continue. On vous propose d'écouter un reportage réalisé dans le cadre de la série de la Frappe et de la Core Lab, déjà demain les territoires face au changement climatique. Près de 12 millions de maisons individuelles en France seraient potentiellement concernées par le retrait-gonflement des argiles. Ce phénomène dit des maisons fissurées est causé par des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement climatique. Née en Sarthe, l'association Urgence Maison Fissurée, AUMF, oriente désormais des sinistrés de tout le pays et réclame le statut de sinistré climatique. Benoît Porcher, de RCF Sarthe, a rencontré Elisabeth Guittet, habitante de la commune d'Ivry-l'Évêque, dont la maison est fissurée, et Dominique Goldstein, vice-présidente de l'association Urgence Maison Fissurée.
Onde durable. Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages à la rencontre de celles et ceux qui transforment nos façons d'habiter, de vivre et de faire territoire.
L'achat d'une maison est souvent le plus gros investissement que l'on réalise dans sa vie, mais parfois l'aventure tourne au cauchemar. De plus en plus de propriétaires voient leur maison se fissurer à l'extérieur comme à l'intérieur, avec des conséquences parfois rédhibitoires pour les propriétaires. C'est ce qu'on appelle le retrait gonflement des argiles, le RGA, ou plus simplement le phénomène des maisons fissurées. 12 millions de maisons individuelles seraient touchées en France, selon l'association Urgence Maisons Fissurées. C'est le cas d'Elisabeth Guittet, et qui nous a ouvert les portes de sa maison à Ivry-l'Évêque, dans la Sarthe.
Eh bien, je m'en suis rendu compte en rentrant de vacances il y a 3 ans à peu près, où une grande fissure de ma porte d'entrée était apparue et où je ne pouvais malheureusement plus refermer la porte après. Donc, et puis au fil du temps, des fissures un petit peu partout dans la maison, dans les chambres, sur le plafond, au niveau des poutres et puis surtout la cheminée. On a une très grande cheminée et là, elle s'est décollée du mur.
On est juste à côté de la cheminée, donc on va y aller pour que vous nous expliquiez ce qui s'est passé en fait autour de cette cheminée et comment vous vous êtes rendu compte qu'elle est pas son emplacement d'origine en fait.
Elle s'est décollée du mur d'à peu près presque 1 centimètre à certains endroits, et surtout au niveau du au-dessus du manteau, il y a entre le manteau et le conduit, il y a à peu près, je dirais 1,5 cm qui s'est décollé. C'est-à-dire que la cheminée s'est et enfoncée et décollé du mur en même temps.
Vous voyez vraiment la fumée en fait se dégager dans l'intérieur de la pièce.
Oui, on voyait la fumée sortir des fentes et puis on serait cru un petit peu dans un endroit où on fumait les saucisses, quoi. Ouais. C'était pas très agréable.
Et puis on le voit en plus autour les fissures sur le mur juste à côté.
Ouais. Si je lève le cadre là, vous voyez, c'est des fissures en escalier. Donc il y en a partout derrière et puis la bibliothèque, ma foi, je ne l'ai pas défaite puisqu'elle est accrochée au mur. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, il y en a certainement, puisque ça part de là, ça va là. Donc.
Si on poursuit un peu le tour de votre maison, vous me disiez avant qu'on se rencontre des fissures qui sont surtout visibles à l'intérieur et pas à l'extérieur.
Plutôt à l'intérieur, oui, de quelques fissures à l'extérieur, mais toutes petites et autour, effectivement, des portes, des fenêtres. Par contre, un décalage au niveau du sol par rapport aux plinthes. Donc on voit effectivement que le sol certainement s'enfonce, que la maison s'enfonce.
Oui, parce que le problème des fissures, ça ne touche pas que les murs. Toute la maison est concernée.
La structure de la maison, comme on est sur de l'argile, effectivement, quand il pleut, quand il fait sec, la maison réagit un petit peu différemment, quoi.
Vous me parliez de la porte d'entrée il y a quelques instants. Donc, comme vous le disiez, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on est à l'intérieur. On a la porte d'entrée face à nous. On voit en haut à gauche la fissure qui est là. C'est vraiment là que ça a commencé.
Oui, c'est là que ça a commencé. Et comme c'est une porte cintrée, on ne pouvait plus du tout fermer la porte. Donc, la personne qui nous l'a montée était obligée d'enlever des sécurités pour que justement on puisse fermer correctement. Et puis après, les fissures là, dans la cuisine, des fissures traversantes, donc puis un petit peu partout. Quoi.
Certains plafonds qui sont en plus couverts de toile. Alors, c'est pas de votre fait, c'est les anciens propriétaires.
C'est les anciens propriétaires qui avaient mis de la toile au plafond, donc qui est peinte. Donc sur le coup, on voit pas, mais après, on voit des cloques, on voit les fissures qui, surtout là, dans la cuisine, vous avez vu, c'est quand même très significatif. Et puis, je dis un petit peu partout.
Et vous en découvrez systématiquement, peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, tous les 15 jours.
Des fois, quand on observe bien, on regarde, on lève les yeux, on dit « Ah, tiens, il y a encore un truc là. » C'est malheureusement, je pense que ça ne va pas s'arrêter.
«
Le retrait gonflement des argiles est relativement nouveau dans le paysage bâti, mais il s'accentue depuis quelques années, en Sarthe comme ailleurs, à cause des aléas climatiques de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Née en Sarthe, l'association Urgence Maisons Fissurées accompagne aujourd'hui des sinistrés de toute la France, dont le phénomène prend de l'ampleur. Dominique Goldstein en est la vice-présidente.
Nous, ce qu'il faut savoir dans le retrait gonflement des argiles, on parle de retrait gonflement, c'est-à-dire qu'on est touché quand il y a des grandes sécheresses et quand il y a des excès d'humidité, qui est typiquement le climat qu'on connaît depuis une dizaine d'années avec une accélération récente.
Sans être trop technique, mais en fait, quand il pleut, les maisons s'humidifient, ça fragilise les fondations, et avec des épisodes de forte sécheresse derrière, c'est en fait là, à ce moment-là que ça craque.
En fait, on est construit sur des éponges, donc c'est très facile de comprendre. Hein, quand l'éponge est asséchée, bah, elle se rétrécit, donc les fondations, elles subissent une rétractation de l'argile, et quand d'un seul coup il y a trop d'eau, bah, comme une éponge gorgée d'eau, elle se gonfle, et donc la maison elle subit les aléas de retrait, gonflement des argiles. On a souvent parlé de sécheresse, parce que c'était le phénomène le plus impactant qu'on avait, mais aujourd'hui on s'aperçoit, avec les inondations, avec les pluies incessantes, que nos maisons craquent autant avec la sécheresse que l'excès d'humidité. C'est vraiment l'alternance des deux, et surtout l'envergure de l'écart qui fait des fissures.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ce phénomène n'est pas encore vraiment reconnu par l'État pour indemniser les victimes.
Alors, c'est plus subtil que ça. En fait, on a fait rentrer le RGA, donc retrait gonflement des argiles, dans l'univers de l'indemnisation de la catastrophe naturelle. Et nous, à la UMF, on milite sur le fait qu'on ne veut pas être reconnu comme une catastrophe naturelle, puisque la notion de catastrophe voudrait dire quelque chose d'épisodique, soudain, violent, un petit peu comme un AVC. Nous, en fait, on voudrait être appelé sinistre climatique, puisqu'on est victime du dérèglement climatique, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus sournois, cumulatif, qui va commencer par un cheveu, une fissure comme un cheveu, et qui peut finir avec des étais. On est plutôt comme un cancer qui va venir nous ronger. Et donc, en fait, notre problème, c'est qu'on nous impose des règles qu'on ne peut pas respecter. C'est-à-dire les critères qui nous sont, notamment la datation, on voudrait que nos fissures soient arrivées comme une rivière qui sort de son lit, de telle date à telle date.
À partir du moment où ça commence, les premières fissures apparaissent, ça ne s'arrête jamais en fait.
Absolument. Les huisseries bougent, les sols bougent, etc. Donc nous, on n'a pas un phénomène où c'est arrivé ce jour-là, et puis bop, la rivière elle est rentrée, c'est fini. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans la bonne case. Pour nous, on doit vraiment être considéré comme un sinistre climatique, et les règles doivent s'appuyer pour un sinistre climatique.
Et donc les personnes sinistrées doivent forcément miser, attendre le fait que leur commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle. Et aujourd'hui en Sarthe, il n'y en a pas à ce niveau-là.
Alors on a un beau record pour 2024, et je pense que 2025 sera pareil. On a zéro reconnaissance de catastrophe naturelle RGA. En fait, déjà il faut que le maire de la commune ou la maire de la commune fasse une demande. Il y a beaucoup de communes qui malheureusement le refusent. Ensuite ça passe en commission, c'est-à-dire par exemple la France est divisée en mailles de 64 km². Ça voudrait dire qu'on pense qu'une veine argileuse recouvre uniformément 64 km². Déjà, c'est absolument incompréhensible, puisque dans une même commune, il n'y a pas 100% de maisons qui sont touchées. On parle bien d'une veine argileuse, c'est-à-dire quelque chose d'un peu sinueux, on ne sait pas où elle passe. Et donc, déjà, on nous demande que 64 km² aient le même impact. Ensuite, on nous demande des critères d'évaporation de l'eau, qu'un critère qui a été fait pour l'agriculture, qui s'appelle SWI. Mais en fait, nous, on n'est pas un champ de carottes. L'évaporation, pour un agriculteur, on comprend, mais pour une maison avec une dalle en béton, on ne comprend pas. Donc, en fait, nous, on s'insurge contre tous ces critères qui ont été mis en place comme une sorte de barrage, en fait, et on comprend pourquoi, pour éviter les indemnisations.
Justement, les indemnisations, si jamais, admettons, une commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, ça ne suffit pas pour indemniser les propriétaires. L'assurance ne joue pas toujours le jeu derrière.
Et oui, parce que quand arrive enfin l'arrêté au journal officiel, on dit ça y est, c'est bon. Mais non, l'aventure continue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déclaré à l'assureur, et je rappelle aussi qu'il ne faut jamais déclarer à l'assureur avant l'arrêté publié au journal officiel, parce que certaines compagnies d'assurance se servent du fait qu'on a fait une déclaration avant l'arrêté, et donc disent que les fissures ne peuvent pas être liées au RGA. C'est des fissures d'autres raisons. Donc, l'assureur va dépêcher un expert qui va venir et qui va, sans aucune étude de sol, sans rien avoir à faire, juste en regardant, dire si c'est RGA ou pas RGA. Et s'il dit c'est pas RGA, le dossier est terminé. Il n'a pas à amener une preuve. Donc, on peut faire appel à un expert indépendant, mais ça n'a aucun poids. Parfois, il peut y avoir une entente, j'ai bien parfois, mais elles sont assez rares. Et sinon, en dernier recours, il faut attaquer sa compagnie d'assurance.
des démarches longues et énergivores pour les propriétaires qui sont contraints de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, comme Elisabeth Guité, qui n'a pas d'autre choix que d'attendre.
Non, rien du tout, on attend. Hein. On va pas... Enfin, pour l'instant, moi, j'ai pas l'intention d'investir dans des travaux énormes sans aide. Hein. J'ai pas... Moi, je n'ai pas personnellement les moyens de dépenser 5 000, 6 000 euros pour une étude de sol, sans compter tout ce qui va avec après. On l'a acheté justement parce qu'on vieillissait et qu'on voulait un rez-de-chaussée et une maison facile à vivre. Si un jour on veut la vendre, on perdra certainement beaucoup.
Hein. Et vous connaissiez ce phénomène avant d'acheter cette maison et de vous rendre compte vraiment une fois à l'intérieur de ce qui peut se passer?
Non, pas particulièrement. C'est vrai que je n'avais jamais vraiment pensé au retrait gonflé au Mont d'Argile.
L'association Urgence Maison Fissurée demande au gouvernement l'organisation d'un Grenelle du RGA pour que les propriétaires touchés soient reconnus comme des sinistrés climatiques, avec des solutions d'indemnisation en dehors du circuit des assurances, comme la création d'un fonds RGA. Une expérimentation est menée en ce sens par l'État dans 11 départements, mais aucun en Bretagne ou en Pays de la Loire.
Vous venez d'écouter Déjà Demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages produite par la CorLab et la FRAP avec le soutien de la Fondation de France. Cette série s'inscrit dans le cadre du projet Ondes Durables.
Un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir des alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts.
Un reportage de Benoît Porcher de RCF Sarthe. Le pédalo, c'est bientôt terminé, mais avant, on accueille Camille, qui est en seconde et qui est en stage avec nous cette semaine. Salut Camille.
Salut.
Ce soir, tu avais envie d'évoquer la situation sociale et politique à Haïti, un pays en pleine crise et en proie aux violences des gangs. Et pour en parler, tu le fais à travers un long métrage que tu as vu cette année en classe, le film Freda, réalisé par Jessica Geneus en 2021.
Oui, Freda est un film joyeux, délicat et rempli d'espoir. C'est un véritable chant à la résistance haïtienne et féminine. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps avec mon lycée et je l'ai trouvé bouleversant. Il aborde des thèmes et des causes dont on ne parle pas assez souvent.
Mais alors qu'est-ce qu'il raconte ce film ?
Tout au long du film, on suit une jeune femme qui habite avec sa sœur Esther, son frère Moïse et sa mère Jeannette. Ils vivent dans une petite maison à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, un pays où 60% de la population vit avec moins de 2$ par jour. Le film a été tourné dans des conditions réelles d'une vie à Haïti, avec les manifestations, les marchés, les coups de feu répétitifs. L'insécurité prend donc beaucoup de place. Mais cela n'empêche pas Freda de se battre, de danser et de rigoler avec ses proches.
Ce film montre donc une jeunesse qui ne baisse pas les bras malgré des conditions de vie difficiles.
Il est vrai que dans un pays où plus de 80% de la capitale est contrôlée par une coalition de gangs appelée Vivre Ensemble, beaucoup de personnes partent du pays, mais Freda, elle, choisit de rester et de résister. Sa famille tient une petite épicerie qui leur apporte à peine assez pour vivre, et sa mère est prête à tout pour que ses filles se marient avec un homme riche, pour avoir un niveau de vie supportable, quitte à en laisser leur liberté et leur indépendance. Le film aborde le thème de la condition de la femme en Haïti avec beaucoup de vérité, en dénonçant des situations de femmes battues dans un couple et de leur non-droit à avorter. Le sujet du blanchiment de peau est aussi exposé avec Esther, qui cherche à acquérir des produits toujours plus performants les uns que les autres. Même si Haïti est confrontée à l'une des crises humanitaires les plus graves du monde, Freda veut continuer à aller à l'université et à s'instruire. Là-bas, les débats entre étudiants au sujet de la situation politique et sociale du pays et de l'importance de la langue, notamment du créole, se font régulièrement et leur niaque d'apprendre et d'échanger leur avis est bien présente. Même si avec les événements, les professeurs ne peuvent malheureusement pas être tout le temps présents.
La jeunesse donc continue à aller à l'université, mais est-ce qu'elle arrive à vivre correctement dans ces conditions ?
Non, évidemment, c'est compliqué. Les commerces sont désertés, les églises sont détruites et les établissements de santé fonctionnent à peine alors que le choléra reste une préoccupation majeure de santé publique. Aussi, plus d'un million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays dans des camps où les conditions de vie sont alarmantes. Quand le film est sorti en 2021, 4 millions d'Haïtiens étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Dans ces camps, l'eau continue d'arriver, mais tout le reste s'est arrêté depuis que le président Trump a coupé les financements de l'Agence des États-Unis pour le développement. On ajoute à cela l'insécurité avec des rafales de tirs à répétition.
On l'a dit, le film date de 2021, ça fait 5 ans. Est-ce que la situation à Haïti s'est améliorée depuis ?
Pas vraiment, non. Il y a eu des milliers de morts depuis 2021 et la violence armée s'est intensifiée depuis 2025. Maintenant, c'est plus de 5,7 millions de personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire, dont près d'un tiers qui se trouvent en situation d'urgence. Les femmes et les filles figurent parmi les plus touchées par la crise. Les gangs utilisent régulièrement la violence sexuelle, y compris les viols collectifs, comme instrument d'intimidation et de contrôle. Le signalement des incidents reste faible en raison de la peur et de la stigmatisation, et l'accès aux services est limité, ce qui aggrave les traumatismes et l'impunité. Et on ajoute à ça qu'il n'y a pas eu d'élection législative ou générale depuis 2019. C'est le Conseil des ministres, dirigé par Alix Didier Fils-Aimé, qui assure l'intérim depuis le 7 février 2026. Des habitants de la capitale organisent des programmes de nettoyage dans la ville pour enlever un maximum de ruines ou limiter les dégâts et ne baissent pas les bras. La capitale du pays Port-au-Prince est plongée dans les abîmes, il n'y a plus d'écoles, d'hôpitaux et de commerces. Mais tant que la population continuera de résister, le pays n'aura pas totalement renoncé à son avenir.
Et à noter que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rend dans le pays la semaine prochaine pour une visite de solidarité avec la population. Merci à toi Camille, on te souhaite une bonne fin de stage.
Merci.
Et on vous invite à aller voir le film Freda. Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de campus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Maëlle, à la technique. La programmation continue sur le 103FM, alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.